Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Présentement, c'est que 4000 personnes, ils ont pris 4000 personnes dans les collèges américains qui ont des relations sexuelles, on appelle ça casual, les gens qui se rencontrent juste pour avoir une relation sexuelle et vont au prochain partenaire, ces personnes sont plus portées à avoir la dépression. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans le spirituel, et on sait aujourd'hui avec la science qu'au travers des relations sexuelles, il y a des choses qui arrivent dans notre cerveau qui sont semblables même à quelqu'un qui prend de la cocaïne. Donc ici, je ne suis pas et je ne prêche pas contre la sexualité, je prêche pour la sexualité dans le mariage. Ceci dit, il y a une réalité, il y a des portes qu'on ouvre quand nous marchons hors des voies de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu peuvent dire amen. La drogue, la même drogue, la cocaïne, et je n'ai pas mis cette image ici, mais j'avais plusieurs images, mais la même cocaïne peut rendre cannibale. À Miami, il y a plusieurs cas où est-ce qu'il y a un homme qui a pris cette drogue et a mangé un STF, est allé, et ici, je n'ai pas voulu être graphique, mais j'aimerais te dire que c'est dangereux. C'est dangereux. Nous avons une génération qui se lève et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es tombé dans le piège, fais attention. Et si tu t'en vas, et je sais parce que je vois qu'on a plusieurs jeunes et ici à l'église, et j'aimerais te dire, tu as un cœur pour Dieu, tu veux rester dans les voies de Dieu, j'aimerais t'inviter, et pas seulement les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, la tentation est partout. Et j'aimerais te dire que Dieu a des plans merveilleux pour toi et fais attention aux portes que tu ouvres. Et quand je lisais le texte, ça me rappelait aussi Sisyphus. Sisyphus est un roi ingénieux qui a été puni par Hadès, pour ceux qui aiment un peu la mythologie grecque. Et Hadès l'a puni, il devait monter une pierre sur le haut d'une montagne. Mais à chaque fois que Sisyphus emmenait la pierre en haut de la montagne, la pierre redescendait par elle-même à terre. Alors, toute sa vie, tout ce qu'il faisait, c'est monter la pierre en haut de la montagne, redescendre en bas. Il était tourmenté. Et c'est ça, c'est la vie que le diable veut pour toi. C'est la vie que le diable, que les démons veulent pour moi. Une vie de tourment. Quelqu'un raconte cette histoire qu'un homme riche finlandais qui était athée a dit, « Moi, je ne veux pas donner rien à l'Église, je ne veux rien donner pour le monde, que les gens, j'aime pas les gens, je m'aime moi-même. Maintenant que je vais mourir, je veux que vous donniez mon argent au diable puis aux démons. » Il dit, « OK. » Alors là, il est allé en cours, le testament, une fois mort. Il se dit, « Mais comment on va faire pour donner son argent au diable et aux démons? C'est juste pas possible. » Et là, les juges ont dit, « Mais tout ce qu'on a à faire, c'est rien faire. Si on ne fait rien avec l'argent, puis si on ne fait rien avec les propriétés, à un moment, il va y avoir de l'herbe, il va y avoir le désordre, et le diable et les démons vont prendre possession. Ne faisons rien. » Et j'aimerais te dire que dans ta vie, en début de service, si tu ne fais rien pour te soigner, si tu ne fais rien avec toutes les choses qu'on va discuter aujourd'hui, le diable va prendre place. Le diable va prendre place. Et Luc 8, 28 dit, « Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Hey, moi, j'ai été frappé ici. Il connaît Jésus. Le diable connaît Jésus. Plusieurs, il y a peut-être des gens, il y a des êtres humains qui vont dire, « Jésus, c'est quoi? Jésus, il n'a jamais existé, il n'est jamais venu sur terre. » Mais le diable et les démons connaissent Jésus. C'est l'ennemi de Dieu est face à lui. Et il aurait pu jouer le jeu. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et je me suis arrêté là, et c'est là que je suis allé lire Jacques 2, 19 qui dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi. » Puis j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es ici à l'église, peut-être tu crois, tu dis, « OK, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. » J'aimerais te dire aujourd'hui, je vais te dire peut-être ce que plusieurs disent pas, c'est pas assez. Tu dois avoir plus que ça. Tu dois avoir une soif pour la cause, une soif pour la maison de Dieu, une soif, quelque chose qui t'appelle à te repentir, quelque chose qui t'appelle à plus que le une heure qu'on a ici à l'église, quelque chose qui t'appelle à te mettre à genoux chez toi à la maison, quelque chose qui t'appelle à intercéder pour les âmes, quelque chose qui t'appelle à pouvoir non seulement soigner ta vie pour les autres, mais soigner ta vie pour l'éternité. Le groupe Barna aux États-Unis, qui est un groupe de statistiques chrétiens, ont dit, ils ont appelé 1007 personnes aux États-Unis, et sur 1007 personnes, ils ont découvert que 62% croyaient que le diable était juste une allégorie. Et 30% des gens étaient en désaccord. 8% ne voulaient pas donner leur opinion. Et je te dis aujourd'hui que les démons, la position de l'Église Nouvel Espoir, les démons sont une réalité. Le diable est une réalité. Et notre premier travail, Jésus est venu. Jésus est venu dans ce monde et une des premières choses qu'il a fait dans Matthieu 10:1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Une de nos grandes missions, avant même la croissance de l'Église, nous voulons avoir cette Église pleine, mais nous voulons avoir cette Église pleine de personnes transformées et délivrées. Nous n'allons pas changer le message pour avoir la place pleine. Nous allons garder le message. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous voulons des gens transformés. Avec des gens transformés, nous n'allons pas seulement changer le bâtiment, mais nous allons changer Ottawa. 1 Jean 3:8 dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable, dès le commencement, a péché. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Cet homme dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Fils du Dieu très haut? Matthieu 8, 29 nous dit que, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils du Dieu très haut? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Les démons savent qu'il y a un temps où est-ce qu'ils ne pourront plus rien faire. Ils croient à la fin des temps. Il dit, es-tu venu nous tourmenter? Est-ce que c'est la fin? J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il faut que ta foi, il faut que tu crois que ton Dieu revient. Jésus revient. Certes, on n'a pas la date. Certes, on n'a pas le temps. Mais je crois que plusieurs chrétiens ont arrêté de croire que Jésus revient. Ils ont arrêté. Ils ont dit, ça fait un siècle, ça fait deux siècles, hop, je m'en vais avec ma vie. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les démons tremblent devant Dieu. Les démons tremblent devant Dieu. Dans Marc 3:11, il est écrit que les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Dans Matthieu 8:29, il dit, « Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Ce que j'apprends ici, c'est le problème et le défi, c'est vrai que l'Église a des fois, il y a des mouvements qui ont peut-être, ils ont peut-être mal enseigné ce que moi j'appelle la démonologie. Jésus arrive, puis il n'est pas stressé, parce que quand tu as Jésus en toi, le démon va partir. C'est pas grave, là. Et on enseigne aux gens de crier, de transpirer. Moi, je me vois comme Élie. Élie, j'aime beaucoup Élie dans la Bible. Élie, il est là devant les prophètes de Baal, il les voit transpirer, il les voit se déchirer. Puis lui, vient, il fait une prière de 2 minutes, puis pouf, le feu arrive. C'est ça ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Et pour nous, on n'a pas cet enseignement n'a pas pour objet de te faire peur. Tu ne vas pas retourner chez toi, puis ouvrir un tiroir, puis penser, « Oh, j'ai entendu un démon, il est là. » Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, cette prédication a pour objet de faire regarder dans toi-même et dire, Seigneur, soigne-moi. Soigne-moi afin que quand même le démon va me voir, il va pas dire ce qui a été dit à un moment dans le livre des Actes. Il y a des gens qui vont faire une délivrance et ils disent, on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais toi, je te connais pas. Puis j'aimerais te dire quelque chose. Ils n'ont pas dit « on connaît le Jésus qui est en Paul ». Ils ont dit « Paul, je le connais ». Moi, j'aimerais que face aux démons, de ma vie, face aux démons qui m'entourent, le diable puisse dire « je connais Jésus, je connais Paul, je connais Emmanuel, je connais Emmanuel ». Et le défi, c'est la persévérance. Le défi que nous avons face à Jésus, c'est la persévérance. Ceci me rappelle cette histoire de cet enfant. qui voulait des biscuits. Il arrive au restaurant avec sa mère, il dit, « Maman, je veux des biscuits. Aujourd'hui, je t'ai emmené au magasin, mais tu n'auras pas des biscuits, puis tu ne me demandes pas des biscuits. » Et là, maman, avec autorité, passe. Et là, il devait passer juste à côté des biscuits parce que maman devait prendre une boîte de jus de pomme qui était juste à côté des biscuits. Donc, maman prend la boîte de jus de pomme. « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir des biscuits? » Maman regarde, « qu'est-ce que je t'ai dit? » Juste le regard. Ils s'en vont, ils font le tour. Ils reviennent encore plus tard pour prendre quelque chose d'autre. Et le petit essaie de demander, « Maman, cette fois-ci, regarde juste le regard. Hein. » On sait tous, on a tous eu le regard de notre mère un jour où est-ce qu'on dit, « Écoute, je ne vais pas demander. » Et juste au cash, juste quand ils arrivent au cash pour payer, en sortant, le petit dit, « Oh Seigneur Jésus, j'aurais voulu des biscuits. Donne-moi des biscuits. » Tout le monde applaudit. Et le petit n'a pas seulement eu un paquet de biscuits, il en a eu 20. Parce qu'il y a eu des gens qui l'ont acheté des biscuits. Parce que le petit était persévérant. Persévérant. Et une des choses que nous devons faire, c'est être persévérant. On dit ici que Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Mais l'esprit impur n'est pas sorti tout de suite. Puisque Jésus est en train de commander, et là, l'esprit impur est en train de lui parler. Ça demande du travail. Ça demande, c'est comme une église, ça demande du travail. Plusieurs personnes abandonnent le royaume, abandonnent l'église, abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas des résultats tout de suite. On est la génération microwave. On veut mettre notre nourriture de 2 minutes. Moi, je n'aime pas la nourriture de micro-ondes. Hein. Ma femme, c'est ça m'a rendu malade au début parce que j'ai toujours mangé de la nourriture chaude, bien préparée. Puis j'ai dit « Hallelujah » quand la bouffe est bonne. Et quand j'allais, j'achetais une petite boîte, je mettais dans le micro-ondes, je mangeais, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est vrai, vrai témoignage. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est tellement habitué de manger du micro-ondes. Parce qu'on est tellement pressé, puis on ne sait même plus à quoi on est pressé. On est rendu comme le lapin, pour ceux qui ont déjà vu Alice au Pays des Merveilles. On est rendu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est en retard, mais il ne sait même pas pourquoi il est en retard. Et Dieu veut te dire aujourd'hui matin, arrête de courir. Pourquoi tu cours? Commence à prendre soin des fondements. Commence à prendre soin de qu'est-ce qui est essentiel. Persévère. Et Jésus était là, il commandait. Moi, je vois Jésus, il vient juste de dormir, il relaxe. Il vient de dormir, là, les esprits viennent, ils commandent. Avant même qu'il parle, il commande, il est en train de commander. Et c'est la différence entre Jésus et plusieurs croyants. C'est la différence entre les vrais disciples et ceux qui sont incrédules. Leur différence, c'est quoi? C'est qu'ils savent que leur Dieu est puissant. Quand tu sais que ton Dieu est puissant, la montagne va bouger. Elle bougera. Et il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait et lié par des chaînes. Et ça, ici, légion, c'est comprendre que la religion et la culture donnent des restrictions. La religion, c'est bon, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Mais la relation avec Christ, c'est la prochaine diapo, c'est beaucoup, beaucoup plus. La relation avec Christ restaure. Elle restaure. Et nous, ici, à l'Église Nouvel Espoir, on croit à la relation avec Christ. On croit que Christ est venu pour restaurer. Pendant que les gens l'enchaînaient, les gens n'osaient même pas passer là-bas. Fais attention à lui, là. Tu ne connais pas son passé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Moi, j'aimerais te dire que si ça va mal dans ta vie, tu es à la bonne place. L'Église Nouvel Espoir, c'est la place pour toi parce que tu vas être restauré. Et nous croyons au Dieu de la restauration. On ne croit pas au Dieu qui vient et puis parce que tu es déjà tout beau, c'est juste un car wash, ou est-ce qu'on va juste nettoyer parce que tu es déjà une BMW. On croit que tu peux être une mauvaise voiture et rentrer ici et sortir d'ici et être une Mercedes-Benz, c'est le cas. Moi, j'aime les voitures. Je dis amen, amen à ça. La religion pense au comment, mais Jésus, lui, est intéressé au pourquoi. Pourquoi il est ici, lui? Qu'est-ce qui est arrivé? La religion, c'est comment? Comment peut-on le guérir? Comment? Comment? Essayons comment? Jésus dit pourquoi? Pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce que je dois faire afin que sa vie soit changée? Et certes, des fois, on est face à nos circonstances et on voit juste le comment, mais Dieu aimerait que tu penses au pourquoi comme lui. Pourquoi? Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu aimes Jésus? Pourquoi tu lis ta Bible? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Tant qu'à y être, là, je veux dire, si tu vas à l'église et tu n'y crois pas vraiment, tu ne crois pas au pourquoi, tu perds ton temps. les pires des personnes en enfer, ce n'est pas ceux qui ont été dans le monde. C'est ceux qui viennent à l'église dimanche après dimanche puis se trompent eux-mêmes. Parce qu'une fois que tu vas t'en aller, que tu vas être face à Dieu, face au grand « Je suis », tu vas réaliser que tu as vécu une hypocrisie toute ta vie. Tu peux être là à chanter, tu peux être là à faire quels que soient les services. Et ici, ce n'est pas par condamnation que je parle, mais je crois que l'Esprit de Dieu veut que nous, prédicateurs, on dise la vérité aux gens. À quoi ça sert d'avoir des mouvements dans lesquels les gens vont semaine après semaine avec passion, mais on ne voit aucune transformation? Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu nous appelle, l'Église Nouvel Espoir, à être une Église de transformation. Une Église. Pourquoi tu réagis comme tu réagis à la maison? Pourquoi tu es toujours la victime? Pourquoi? C'est toujours toi. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas capable d'écouter les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive en toi? Pourquoi, quand tu es confronté à la réalité, pourquoi tu as toujours des défis à être confronté à la vérité? Pourquoi? Jésus te pose la question, pourquoi? Et l'appel de Christ n'est pas pour limiter, mais il est pour équiper. Il veut t'équiper, il veut élargir ta vision, il veut élargir tes connaissances. Il aimerait te montrer que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu fais présentement. Dieu t'apprend un métier et l'ennemi, lui, te donne un raccourci. Moi, je vois Dieu comme le père qui est en train d'entraîner son fils. Nous, on a eu l'occasion, mon fils, il y a certains travaux. Il est à l'école secondaire, puis l'école secondaire, au début, c'était un travail pour les parents. So, tu t'assois avec ton fils, puis tu lui montres, écoute, c'est comme ça qu'un travail tu fais. Voilà comment tu dois mettre tes références. Voilà, puis tu dois t'asseoir longtemps avec lui, puis des fois, c'est comme si tu prêches dans le désert. Mais tu dois continuer, parce que tu crois en lui. Tu crois en lui. Pourquoi tu crois en lui? Parce que ta foi, tu aimes ton enfant. Et j'aimerais te dire ce matin que c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu t'apprend un métier, mais l'ennemi, lui, il donne des raccourcis. Il donne un raccourci. L'ennemi, lui, il te dit, écoute, tu n'as pas besoin d'étudier. Quoi ça sert? Toi, tu peux tout de suite aller, fais-toi une banque. L'ennemi, et après, quand tu auras des problèmes, l'ennemi, c'est le premier à te détruire. L'ennemi te dit, hey, tu veux être heureux, tu veux avoir un temps de bonheur et tout ça, prends juste une pof. Pas sincère, juste une pof, juste la drogue, là. Prends-en juste, ça va te faire du bien. Ça va te détendre, plaisir tout de suite. Hey, l'ennemi te dit, écoute, tu veux le couch, là? Achète-le, tu n'as pas d'argent en compte de banque, là? Mais vas-y tout de suite. Vas-y, écoute, it's your life. Tu la vis juste une fois. Ça, l'ennemi te dit. Et Dieu dit, non, écoute, moi, je veux t'apprendre un métier. Je veux te solidifier parce que je sais à la fin, là, tu vas être plus solide que n'importe qui. Vous ne dites pas amen, mais ce matin, je dis amen, big time. Luc 8, 30 nous dit que Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Hey, quel est ton nom? Ici, plusieurs prédicateurs se seraient juste enfouis. Pose la question à la personne, « Quel est ton nom? » Légion. Oh, bye-bye. C'est quelque chose, tu pries sur quelqu'un, j'ai un démon, le démon, je m'appelle Belzébuth. Hey, plusieurs prédicateurs s'en vont là. Mais Jésus était prêt. Et Jésus m'a dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui délivre. Et la personne lui dit, Légion, car plusieurs démons sont entrés en moi. En d'autres mots, on aurait pensé à de 3000 à 6000 démons dans une personne. Maintenant, j'aimerais te dire que c'est très difficile, c'est difficile à croire. Une personne avec 6000 démons, c'est carrément impossible à croire. Mais nous allons voir plus tard, Jésus donne l'évidence de cela à ses disciples. Luc 8, 31 nous dit qu'il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Nous savons ici que la Bible parle de l'abîme dans Apocalypse 9, 2. Je n'irai pas dans tous les détails de l'abîme, mais l'abîme est le lieu où est-ce que les démons sont présentement. Apocalypse 9, 2 nous dit qu'à un moment, l'abîme va être ouvert et l'abîme va être jeté dans la fournaise. Et là, ça va être fini avec l'ennemi, avec les œuvres de l'ennemi. Mais ces démons-là ont dit, écoute, ne nous jette pas dans l'abîme. Nous savons aussi qu'un apocryphe, qui est un livre non canonique, qui le livre d'Enoch, parle, par exemple, de certains anges qui sont venus vers les hommes et qui ont eu des enfants avec les filles des hommes. Et certaines personnes, c'est un texte avec beaucoup de défis, mais vous irez lire Genèse 6, qui parle des Néphilim et ces créatures. Certaines personnes disent que c'est des fils de rois, mais dans les écrits d'Enoch, on parle de certains anges qui auraient connu des filles, des hommes. Et c'est pour cela que Dieu a amené le déluge, d'où tout ce qu'on entend dans la mythologie grecque et tout ça. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Ce n'est pas ce que je dis ici. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des liens entre nous et le spirituel. Il faut faire attention à cela. Romains 17 nous dit, « Qui descendra dans l'abîme? » C'est faire remonter Christ d'entre les morts. En soi, Christ est allé dans l'abîme. Il est allé dans les lieux, dans les profondeurs. Et la littérature apocalyptique parlait déjà de la fin des temps. Matthieu 12, 28 nous dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, disait Jésus, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si Jésus est ici, les démons vont être chassés. Parce que ce que Dieu fait, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voici, s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons connaissent leur future destinée. Est-ce que tu connais ta future destinée? Tu es ici ce matin, est-ce que tu connais ta destinée? Tu sais où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que ta vie, c'est juste avoir ton lunch le matin à midi, au travail, avoir du fun avec les boys, puis c'est fini? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu te poses des questions sur ta destinée? Est-ce qu'il y a plus que ça pour toi? J'aimerais te dire qu'il y a plus que ça. Dieu a plus que ça pour toi. Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons supplièrent. Oh, j'aime cette parole parce qu'ils n'ont pas dit, Jésus, j'aimerais, supplièrent. Ils sont devant le grand je suis. Ils ne peuvent rien faire. Notre Dieu est puissant. Supplièrent. Demandèrent de l'envoyer vers les pourceaux. Et dans Marc 5, 13, il est écrit qu'il leur permit, mais il est écrit aussi qu'il y avait environ 2000 pourceaux. Marc est beaucoup plus exact dans le nombre, à peu près 2000 porcs qui étaient là. 2000 porcs qui gambadaient. Là. Et nous savons dans Lévitique 11, 7, dans Deutéronome 14, 8 et dans Proverbes 11, 22, on nous parle comment le peuple d'Israël traite les porcs, comment c'est un animal qui est impur, qui est traité comme impur. D'ailleurs, la science aujourd'hui le dit, vous pouvez manger ce que vous voulez. Si je fais pas, je vous dis pas quoi manger, mais la science aujourd'hui nous dit que le porc n'est pas le meilleur aliment pour notre corps. La diapo 33 nous dit, Jésus est en contrôle du passé, du présent et du futur. Jésus est en contrôle de ton passé, de ton présent et de ton futur. C'est le défi de plusieurs chrétiens aussi. Moi hier, jeudi à la pratique, quelqu'un est venu me poser la question, à la pratique, on était avec les boys, j'ai dit, est-ce que tu es stressé pour l'Église? Je ne suis pas stressé. Je suis plus stressé. Je dis, pourquoi je suis plus stressé? J'ai dit, parce que au début de l'Église, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a placé. Je dis, dans le milieu, je faisais de la comparaison. Je regardais les autres, puis je dis, ah, hey, qu'est-ce qui arrive à... Puis là, maintenant, c'est comme si je suis redevenu comme au départ. Je fais confiance à mon Dieu. Mon Dieu m'ordonne, fais-lui confiance. Plogue-toi à Dieu. Quand tu es plogué à Dieu, tu n'es pas stressé. Parce que tu sais qu'il a le contrôle de ton passé, de ton présent, de ton futur. Tu es sur high speed. Mais pas le bon high speed, hein? Pas le mauvais high speed. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita et se noya dans l'acte. Imaginez le spectacle. 2000 porcs qui sautent, qui se précipitent d'une falaise puis vont dans l'eau. 2000 porcs à tour de rôle. Moi, j'imagine les 12. Les 12 sont là, ils regardent les porcs s'en aller, un à un. Quel spectacle! Quel spectacle fantastique! Et ici, l'Esprit de Dieu m'a appris quelque chose. Les démons ne savent pas nager. Peut-être que vous ne comprenez pas cette parole, mais cette parole est puissante. Les démons ne savent pas nager. Quand Dieu veut délivrer ses enfants de leur tentation, il n'enlève pas l'épreuve, mais il leur donne la patience. Parce que dans l'épreuve, tes démons vont te lâcher. Dans l'épreuve, quand tu remercies Dieu, et nous allons le voir la semaine prochaine avec ses eaux peuvent revivre. Dans l'épreuve, quand tu as la gratitude, qu'est-ce qui arrive? Les démons te lâchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de nager. Ils ne sont pas capables. Eux, quand ils rentrent dans l'eau, ils commencent à médire, ils commencent à maudire Dieu. Mais toi, tu adores Dieu. Toi, tu dis Dieu est bon. Et j'ai des exemples dans la Bible. Abraham, quand Lot a été enlevé, il a dit, je bénis Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes hommes. On est quelques hommes, mais on va aller le sauver. On va le sauver, il l'a sauvé. Jacob a dit dans sa fuite, Dieu, si tu me bénis, je vais te donner la dîme de tout. Et Dieu l'a béni. Joseph vendu par ses frères, a fait confiance à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Joseph, Dieu l'a sorti de la prison et Dieu lui a donné une promotion. Dieu te donne une promotion de la prison. Tu deviens le bras droit du roi avec la bague du roi. Super de bonne promotion. Moïse dans sa fuite. Dans sa fuite, il a tout abandonné. Il pensait que son rêve était fini. Dieu est allé le rencontrer. Pourquoi? Parce que, en quelque part, il savait que les démons ne savent pas nager. Josué, après la mort de Moïse, Josué s'est peut-être dit, comment je vais... Une église d'un million, encore plus, parce que c'est un million qui sont sortis, ils ont eu des enfants en sortant. Waouh! Et je reste avec ça, puis mon prédécesseur, c'est Moïse. Comment je vais faire? Mais Moïse s'est accroché au Dieu. Josué s'est accroché au Dieu parce que Josué a compris que les démons ne savent pas nager. David devant Goliath. David n'a pas frémi. Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel dans la fosse au lion. Que dirais-je de Paul et Silas? Attachés, en prison. Ils ont su que les démons ne savent pas nager. Et cette vérité est la vérité centrale de ce message. Si l'Église Nouvel Espoir, si chacun de nous, et par Église, je ne parle pas de ces murs, je ne parle pas de ce bâtiment, je parle de vous. Si vous réalisez que les démons ne savent pas nager dans vos vies, quand il y aura des circonstances néfastes dans vos vies, au lieu de chialer, vous allez bénir l'Éternel. Dites, Seigneur, merci. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais me sortir de cela. Mais tu sais, je sais que les démons, ils ne savent pas nager. Et moi, je vois le peuple, je vois les 12 en train de regarder, je vois les gens qui étaient en train de paître les troupeaux, en train de voir. Les 12, peut-être quand le monsieur disait « Légion, oh, nous sommes 6 000 », peut-être les 12 ont dit « Bah, il n'y a pas 6 000 personnes là, il est en train de délirer, de perdre la tête ». Mais quand ils ont vu 2 000 porcs se lancer dans l'eau, ils ont compris quel esprit il y avait dans cette personne. Ils ont compris que ta personne, ton esprit est capable de contenir à peu près 6 000 démons dans ton corps. Ça veut dire que tu es puissant. Ça veut dire que Dieu t'a créé à son image. Ça veut dire que le diable est jaloux de toi. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu ce matin, j'aimerais qu'on saisisse cette vérité. On saisisse cette vérité afin qu'on puisse élargir notre connaissance, afin qu'on puisse élargir notre amour pour Dieu, afin qu'on puisse... On était ici mercredi, on a eu un temps de prière, un temps d'intercession qui était fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, écoute, l'Église, ce n'est pas seulement le dimanche. L'Église, moi, je vais être abreuvé aux vives. L'Église, c'est être ensemble. L'Église, c'est être proche les uns des autres. L'Église, c'est de pouvoir aller rechercher l'onction pour moi. L'Église, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas mercredi. L'Église, c'est toute la semaine. L'Église, c'est ce que je fais au travail. L'Église, c'est quand je dis bonjour à telle personne. L'Église, c'est quand je ne vole pas au travail. L'Église, c'est le témoignage que je donne aux gens autour de moi. Es-tu l'Église? Est-ce que tu comprends que les démons ne savent pas nager? Alors, si tu ne sais pas nager, j'aimerais te dire, prie. Demande au Seigneur, Seigneur, enlève-moi le fardeau. Seigneur, ce n'est pas une parole de condamnation, c'est une parole de conviction. Mon peuple périt faute de connaissance. Si, présentement dans ta vie, tu ne sais pas nager, et quand j'ai lu cette parole, dans mon bureau, quand je préparais cette parole, j'ai été saisi par l'Esprit, et moi-même, j'ai dit, Seigneur, les circonstances de ma vie, je les balais au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, me voici. Et là, je vais te faire travailler, toi. Oh Seigneur, car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Oh, nul n'est comparable. Vous n'y croyez pas, mais vous allez y croire. Car tu es grand, tu fais. Oh, nul est, nul est, nul est. Alléluia. Oh, 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 nul n'est comparable. Alléluia. Les démons ne savent pas nager. Bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous pouvez sourire, vous pouvez faire un onomatopée, faites quelque chose. Les démons ne savent pas nager. C'est une très bonne nouvelle que je vous donne. Il y a une voie de sortie. Dans votre impasse, dans votre problème, il y a une voie de sortie. Les démons ne savent pas nager. Oh! Et la parole de Dieu va plus loin dans Luc 8, 34. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ce qui arrive ici, c'est que en Jésus, les valeurs spirituelles l'emportent sur l'intérêt matériel. Le défi pour nous, c'est que les valeurs matérielles l'emportent sur les valeurs spirituelles. Mais Jésus est venu changer nos pensées. Il dit, écoute, les valeurs, tu ne comprends pas, là. Tout ton temps, tu t'en vas, c'est bien. Tu es honnête, tu travailles, tu fais ton argent, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tes voyages dans le sud. Tu sais quoi? Ça, vanité. Hey, tu as une nouvelle Internet, high speed, avec 200 mecs, super. Vanité. Oh, tu viens d'avoir la nouvelle promotion. Vanité. Parce que le spirituel importe plus. Jésus vient juste de ruiner des businessmen. Il y avait 200 porcs. Okay? C'est comme si tu as ta business de porc et en quelques heures, paf, tous tes porcs viennent de partir. Pourquoi? Parce que le spirituel vaut plus que l'intérêt matériel. Ça vaut plus que l'intérêt matériel. Et ici, je peux aller plus loin avec cela, et je pense que je vais aller plus loin. Dans Proverbe 21, 31, il dit que le cheval est équipé pour le jour de bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. J'aimerais te dire qu'on peut avoir toutes les stratégies qu'on veut, on peut s'asseoir ici, faire tous les meetings qu'on veut, mais la croissance de l'Église va venir de l'Éternel. C'est l'Éternel qui apporte la croissance. Oui, il y a une sagesse dans sa grâce. Oui, il y a un lieu où est-ce qu'on prie, où est-ce qu'on va chercher son cœur. Oui, il y a une discipline. Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. La même chose avec ton foyer. La même chose avec ton travail. La même chose avec quel que soit ce que tu fais. On dit, mais pasteur, comment plusieurs personnes sont millionnaires, ils ne vont même pas à l'église? Parce que le spirituel l'emporte sur l'intérêt matériel. Peut-être qu'il est millionnaire. J'aimerais te dire qu'il s'en va, à la perdition. Il va être un jour comme le riche avec Lazare qui était pauvre, Lazare qui mangeait des miettes. Le riche dit, Lazare, va dire à ma famille, s'il te plaît, on avait des bons temps de famille. On était bien ensemble, on avait du fun ensemble, on avait des bons parties. On allait dans le sud, on faisait des... Va leur dire de ne pas faire la même erreur que moi. Et nous savons ce que la parole de Dieu dit là-dessus. La parole de Dieu dit, écoute, ils m'ont eu. S'ils ont eu les prophètes, ils m'ont eu. Ils ne vont pas entendre. Même si j'envoyais un signe spectaculaire, et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle. Pas demain, aujourd'hui, Dieu t'appelle. C'est sérieux. On est ici pour la chose la plus sérieuse que n'importe quel humain doit rechercher, la vie éternelle. La vie éternelle. La parole de Dieu dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. J'aime 2 Rois 6, 16, 18. C'est Élisée qui est avec son serviteur. Élisée est avec son serviteur, ils sont entourés des ennemis de partout. Et là, le serviteur, il est conscient. Lui, il est dans la vie matérielle. Il voit les ennemis, le cœur bat. C'est comme toi, dans ta situation, il n'y a pas d'argent, tu vas faire des paiements fin du mois. Stress, pouh, on va, ouais, je dois aller voir le docteur, prendre mes pilules de stress. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est comme toi avec ton enfant. C'est comme des circonstances qu'on peut avoir dans la vie. Et le serviteur est là, et réalistiquement, ce serviteur a raison de paniquer. Élisée le regarde, et il sourit. Moi, je vois l'œil du serviteur, dit, « Hey, mon prophète, il est sur quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? » Et pendant qu'il panique, pendant qu'il a un cœur angoissé, Élisée dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que je veux faire dans quelques minutes. Ouvre ses yeux pour qu'il voie tous ceux qui sont autour de moi. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Élisée, autour de lui, avait une armée. Et quand le serviteur a eu les yeux ouverts, il dit, waouh, quel bataillon. Là, tout à coup, le serviteur qui avait peur change et commence à provoquer les ennemis. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je te dis, n'aie crainte, parce que la parole de Dieu dit, même s'il te tue, je vais te ressusciter. Quelle confiance on devrait avoir en Dieu? Mais c'est parce qu'on a peur. Oh, Dieu, j'aimerais pas qu'il me tue. L'Éternel te dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Sois passionné. Sois passionné, passionné pour la cause. Et quand tu vas être passionné pour la cause, tu vas voir, sois passionné, passionné, passionné pour la cause. Ça peut être passionné dans tes relations, passionné dans ton service, passionné dans ton mariage. Quand tu es passionné dans ton mariage, quel que soit les stress, tu dis, OK, on s'est crié après, là. On passe, on tourne la page. Passionné pour ton enfant. Ton enfant te rapporte un mauvais bulletin à l'école, à la maison, t'es rien. Toi, là, t'es comme ta mère. Oh! Vous dites, oh, mais vous dites ça. Oh, hey, t'es comme ton père. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis, t'es comme moi. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un lieu où est-ce que tu dis, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, merci, tu m'as béni de toutes choses. Alléluia, tu m'as donné un défi nouveau. Je vais chanter un cantique nouveau, Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie. Cet enfant n'est pas seulement béni, il est appelé à régner. Alléluia. Il est appelé à être la tête et non la queue. Oui, ce n'est pas le déni. Tu proclames ce que tu ne vois pas encore et je te garantis, tu le verras. De Corinthiens 12, 9 nous dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais pourquoi tu n'aimes pas la faiblesse? Pourquoi tu n'aimes pas la faiblesse? Moi, j'aime ça, j'aime commencer. Je sais, on a commencé cette église, il y avait 5 personnes, on faisait un appel, j'appelais ma femme en avant, carrément. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se repentir. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé à son mari. J'avais ma femme qui s'avançait, alléluia. Et Dieu a ajouté, et je sais que Dieu va ajouter. Je sais, pourquoi? Parce qu'il se glorifie dans ma faiblesse. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne, dans notre faiblesse. Même si l'Église aujourd'hui a 10 000, a 1 000, a 5 000 membres, il y aura toujours des temps de faiblesse. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer aux temps de faiblesse d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, le défi peut être au niveau du nombre. Demain, le défi peut être financier. Après-demain, le défi peut être ailleurs. Mais j'aimerais te dire, Dieu se glorifie dans la faiblesse. Dans ta faiblesse. La même chose dans un couple. Dieu se glorifie dans la faiblesse. La même chose dans le travail. Dieu se glorifie dans la faiblesse. C'est pour cela, même si tu vis des naufrages, regarde les gens. Fais comme Job. Viens, critique-moi. Parle de moi. Moi, je cherche les vieux ennemis, les vieux critiqueurs. OK, viens. Tu as critiqué. Maintenant, c'est fini. Je cherche des nouveaux ennemis. Viens. Parce que Dieu, mon Dieu, se glorifie dans la faiblesse. Tu dis, mais le pasteur a dit, il cherche des ennemis. Oui, dans la parole de Dieu, tout homme de Dieu a eu des ennemis. Pourquoi? Parce que le diable est contre toi. Et tous ceux qui sont habités par l'esprit du diable vont être contre toi, vont parler contre toi, vont médire contre toi. Mais j'ordonne, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Oh! Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus. Et là, ils furent saisis de frayeur. La personne frappait, la personne se détachait, il n'avait aucune frayeur. Maintenant, il est délivré, il est assis devant Jésus, il est habillé, plus de frayeur. C'est ce qui arrive dans le monde. Tu fais le bien et on t'haït pour le bien que tu fais. Mais ce n'est pas grave. Jésus ne se laisse pas ébranler par ça. Jésus ne s'assoit pas devant eux pour commencer à critiquer. Jésus a une stratégie. Et nous allons voir la stratégie de Jésus. Devant l'ennemi, ne sois pas paralysé. Devant l'ennemi, prends le temps d'intercession. Dieu va te donner l'intelligence. Jacques dit à celui qui manque de la sagesse qu'il demande, Seigneur, augmente ma sagesse. Seigneur, augmente ma foi. Ce combat est dur pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, donne-moi. J'ai besoin d'un download. Update, Seigneur. Mise à jour. Mon programme ne fonctionne plus. J'ai besoin d'un nouveau programme. Et devant Dieu, Dieu a toujours des plans pour nous. Dieu a toujours une réserve pour nous, une provision. Et quand les démons te quittent, l'entourage peut te rejeter. Mais ne crains pas. Et on conclut, on arrive près de la conclusion. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Seigneur, je veux rester avec toi. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, regarde comment il te rejette, s'il te plaît. Je veux rester avec toi. Je vis des bonnes choses. Oh, pasteur, j'aimerais tellement rester à l'église. Il y a tellement quelque chose de bon. Il y a tellement une présence de Dieu dans l'église. Pasteur, j'aime ça quand je vais dans les conventions. J'aimerais rester ici. Mais tu dois vivre dans la vraie vie. Jésus te dit, écoute, tu dois retourner à la maison. Pasteur, j'aime pas mon travail. J'aime pas l'entourage. Tu dois aller au travail. Oh, ça, Oh, mais pasteur, tu ne comprends pas. Il ne m'aime pas. Oh, Jésus, tu ne comprends pas. Tu viens juste de me délivrer. C'est eux qui m'ont rendu comme ça. J'étais tellement stressé, j'étais rejeté. C'est pour ça que je suis tombé dans la drogue. Puis, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois retourner. Tu dois retourner. Et nous verrons la semaine prochaine avec ces eaux. Est-ce que Dieu peut les faire revivre? Mais il y a une réalité ici. C'est que Jésus l'envoie. Pourquoi? Pour qu'il raconte tout ce que Dieu a fait. Ils peuvent chasser Jésus, mais ils ne peuvent pas chasser leur famille. Ils ne peuvent pas. Son père qui va le revoir à la maison ne peut pas dire, écoute, mon fils, là, je veux plus que tu habites la contrée. C'est un jeune qui a vécu là. C'est quelqu'un qui est de la région. C'est quelqu'un, quand il revient, je sais, et ayant vécu même certains défis, quand je rentre dans certains milieux, des milieux, mes parents étant d'origine zaïroise, quand je rentre dans certains milieux zaïrois, ils ne peuvent pas me rejeter. Quel que soit, ils ne peuvent pas me rejeter. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose, il y a un lien. Ils peuvent t'haïr, mais ils ne peuvent pas te rejeter. Et il retourne, il raconte tout ce que Dieu a fait. Et ce matin, Dieu me mettait à cœur. Dieu va faire des grandes choses dans ce lieu. Dieu va te délivrer des démons. Dieu va te délivrer des choses qui sont derrière toi, des choses qui te rendent captif. Mais il va te dire, raconte des merveilles. Sois prêt à raconter. Le défi, c'est qu'il y a plusieurs gens qui sont, Seigneur, délivre. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, fais pour moi. Moi. Et à la fin, jamais un merci. Jamais un Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Compte, arrête d'être ingrat. Tu sais, il y a des gens, juste aujourd'hui, tu es né, tu es venu ici à l'église, tu as des mains, tu as des jambes, il y a des gens qui sont nés sans ça. Alléluia, merci Seigneur. Et la personne, j'aime beaucoup Nick Vuljic, quelqu'un qui est né sans jambes et sans mains, il dit la chose suivante, il dit, au moins je suis né avec une tête. Il y a des choses que tu as que les autres n'ont pas. Commence à compter, commence à bénir Dieu. Bénir Dieu. Seigneur, je te remercie. Seigneur, si tu marches, tu viens en bus, Seigneur, merci pour OC Transport. Il y a des pays où est-ce qu'il n'y a pas OC Transport. Alléluia. La neige, alléluia. Tu sors dehors, Seigneur, je te bénis. Parce que s'il y a la neige, je peux faire du ski. Alléluia. Même si je n'aime pas le ski, je vais aimer. Commence à remercier le Seigneur. Ah, toujours, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu veut te dire de raconte les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Raconte, commence par raconter. Et en commençant à raconter, tu vas voir, tu vas être délivré. La vraie délivrance vient quand on parle de Dieu. En conclusion, mon appel aujourd'hui, il est très simple. Plusieurs d'entre vous, tu es rentré dans ce lieu. Et tu sais qu'il y a des habitudes que tu as. Tu essaies de les lâcher. Ça fait un an, ça fait 2 ans pour certains, ça fait 6 ans. Tu essaies de les lâcher, mais tu es comme un CD dans une machine qui fait un loop. À chaque fois, ça reste à la même chanson. Dieu est là pour toi aujourd'hui. Il y a des choses qui sortent juste dans la prière et dans l'intercession. Ce n'est pas un spectacle. Je ne suis pas ici pour vous amuser. Je suis ici parce que je crois que l'Esprit de l'Éternel est capable de te délivrer. Il y a des chaînes que tu as, on va prier pour toi. L'équipe va être ici, on va prier pour toi. On va prendre le temps, en conclusion, prier pour toi. Et j'ai bien dit, Jésus ne se moquait pas de la personne qui avait des chaînes. Jésus ne dénigrait pas la personne qui avait des chaînes. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il cherchait à restaurer. Et je crois qu'il y a un lieu dans l'Église où est-ce qu'on doit être ouvert à la restauration continuelle, à la repentance continuelle. Tu es ici et tu sais que c'est toi. J'aimerais t'inviter, pendant que nos musiciens s'avancent, j'aimerais t'inviter à t'avancer et je ne vais pas arrêter, même si tu es décidé, même si tu sais que tu dois partir à la maison, je te libère. Mais pour ceux qui ont soif, pour ceux qui veulent plus de Dieu, et un esprit, un démon, ce n'est pas seulement... Il ne nous possède pas seulement, mais des fois, il nous opprime. sais, tu es opprimé. Tu es opprimé par la déception. Tu es opprimé par des mauvaises pensées. Tu es opprimé par des gens autour de toi, par ton environnement, et tu ne sais pas quoi faire. L'Esprit de Dieu est ici. Viens aux eaux vives. Viens ici. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Crois-moi, Dieu est capable. Tu es ici, tu as un défi. Tu as un défi, quel que soit ton défi qui te hante, tes cauchemars qui te hantent. J'aimerais te dire aujourd'hui, prends la décision. Prends la décision de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le comment, mais je veux que tu... Je veux savoir pourquoi. Fais de quoi pour moi. J'en ai assez du statu quo. J'en ai assez du surplace. On a dit que le surplace, c'est ça qui fait que l'ennemi prend beaucoup dans le terrain. Prend beaucoup plus de place. Dans une guerre, un général doit avancer. Un général qui fait toujours de la défense, comme dans le hockey. Une équipe qui fait juste de la défense ne va pas marquer des buts. Il faut avoir une stratégie d'offense. C'est le temps pour toi d'avancer. Alors, tu es ici. Je t'invite. Pendant que l'équipe va chanter le chant, on te donne le temps. Si tu dois partir, tu es libre de partir. Mais je vais prendre le temps de prier avec ceux qui ont besoin. Ceux qui ont besoin que ces liens tombent, je vais prendre le temps de prier avec toi.
Tu es ma force.
Reconnaissons notre identité.
Tu es l'espoir.
Nous refusons de vivre dans la défaite.
Incomparable.
Nous accaparons de la paix. Celle que tu donnes, quelles que soient les circonstances. Et nous savons que tu agis dès maintenant et pour l'éternité. Dans ton nom tout-puissant. Et parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez de la joie. Il doit y avoir une ovation qui suit. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Bon dimanche! Bon dimanche!
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.